Curriculum Vitae.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est Danny Benz au microphone. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec quelqu'un qui aime voir loin, tout en restant près des besoins premiers. Un homme qui voyage et fait voyager des jeunes pour changer le monde, un geste à la fois. Géographe de formation, il a fondé et continue de diriger l'organisme AVS, Alternative de vie et éveil social, un organisme situé à Québec. Heureux époux et fier père de deux filles, il est ce qu'on peut appeler un acteur de changement, tant ici qu'au Nicaragua. Bonjour Steve Lemoine.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très, très, très bien.
Alors, on va faire connaissance avec vous. On est heureux de vous recevoir et on va mettre la machine en arrière. On va retourner dans le temps, dans les années 60. Mm-hmm. C'est votre prime jeunesse, Steve Lemoine.
Oui.
Et il vous est arrivé un événement très marquant quand vous aviez 3 ans.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ben oui, j'ai été adopté à la limite apparemment du... parce que dans les crèches, on était jusqu'à 3 ans, puis après on allait dans les orphelinats. Et j'ai été adopté par un papa et une maman qui désiraient avoir un enfant depuis quelques années. Et ils m'ont choisi parce que j'étais en train d'aider un autre enfant. Ça les a touchés, alors ben c'est ça, ils m'ont choisi à partir de ce critère-là, je sais pas trop là.
Mais c'est un bon critère, donc c'est monsieur et madame Lemoine, vos parents, est-ce que vous pouvez nous présenter la famille?
Ma mère est native de Saint-Hyacinthe, par contre elle restait à Trois-Rivières là avec mon père qui lui est natif de Trois-Rivières. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait une bonne différence d'âge là entre nous. Et lui, c'était son rêve, c'était de continuer dans l'armée parce qu'il avait trouvé une fraternité à l'intérieur de ça. Mais à cette époque-là, les gens couraient un peu après l'argent. C'était pas facile de vivre. Et la maman a dit, ben tu reviens à la maison, puis tu vas gagner la vie. Et puis, à Trois-Rivières, on avait trois compagnies de pâte et papier. Fait que toute la famille a fait sa carrière, là. Et puis, ma mère, elle était infirmière à ce moment-là en pédiatrie. Et puis, ils se sont connus à une soirée de la Légion. Et puis, à partir de ce moment-là, ils ont fait un bon bout de chemin ensemble.
Donc, infirmière en pédiatrie, elle devait voir des bébés tout le temps. Alors, d'où son
rêve. Oui, c'est ça, là. Alors, effectivement. Mais elle est sortie de la pédiatrie là, quand je suis arrivé, moi.
Oui.
Ouais.
Et est-ce que vous pensez que cette adoption-là, ça a eu un impact sur vous encore aujourd'hui?
Oui, c'est certain. Ben oui, avec tous les bonheurs qu'on peut avoir, mais aussi avec toutes les difficultés que ça peut entraîner, ça a eu un impact. Je peux pas croire que j'aurais été dans un orphelinat pendant... c'était les orphelinats du Plessis à ce moment-là, on a entendu parler plus tard. Non, je pense que ça a eu un impact positif dans ma vie.
Oui.
Mais comme je vous dis, il y a des difficultés aussi.
La quête d'identité.
J'ai pas tant cherché mes racines. Plus tard, j'ai rencontré ma mère biologique, mais qui avait des problèmes psychiatriques assez importants. Je pense que ça a été une décision
sage
de peut-être, en tout cas, elle a eu 4 enfants et dont 4 pères différents. Donc ça démontre un peu d'instabilité à ce moment-là, là. Fait que je pense que ça a été un bon choix, là.
Ouais. Et dans la famille, le moine, qu'est-ce qui se passe quand on a du temps, les activités, le sport, est-ce qu'il se passe des choses?
Ben, j'étais un enfant assez discret et assez renfermé. Moi, on pourrait dire retiré, vraiment. Oui. Je jouais dans ma chambre avec mes affaires. Ma mère, quand elle organisait ma fête, est-ce que tu veux des amis? Non, j'en veux pas. Quand ma mère était au téléphone, j'étais à côté d'elle. Je pense que j'avais peur de perdre, c'est ça, là, tu sais. Fait que je contrôlais un peu les communications avec les autres. Papa lui était plus c'était un homme qui était un peu dans la politique, qui était aussi un syndicat là
impliqué.
Oui. Puis mon Dieu, dans le temps du PQ là, ça a été numéro un là pour lui là, ça a été une révélation là.
Même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense, ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Steve Lemoine, vous nous proposez donc cette première chanson, Savoir aimer, de Florent Pagny. Pourquoi?
Oh mon Dieu, ça c'est... quand j'ai entendu ça la première fois, ça a été ma révélation de la vie. C'est ça la vie, c'est ça. On est toujours déçu parce qu'on a des attentes envers les autres. Alors que c'est simple. Moi, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé aussi. Mais la première des choses, c'est moi, ce que je fais là-dedans. Alors, ça me ramène toujours à moi-même. C'est d'aimer sans attendre en retour.
Mm-hmm.
Tout le monde le comprend tout de suite, hein, c'est clair. C'est pas long comme phrase, mais c'est punch parce que c'est ça la vie.
Mais c'est le travail d'une vie d'apprendre ça.
C'est le bonheur, oui, oui. C'est toute là, la difficulté d'arriver à toujours quelque chose de simple. Et ça partout dans le monde, ce que j'ai rencontré. Des fois, on l'a un petit peu moins parce que nous, on est un peu détournés continuellement avec la consommation et ces choses-là. Ailleurs, on est un petit peu plus obligé d'être dans la simplicité parce qu'on n'en a pas beaucoup de revenus, pas beaucoup de possibilités. Un peu comme dans les années de mes grands-parents, mes parents, c'était pas facile au Québec non plus. Puis les gens se tenaient, la famille, le noyau, c'était important, par urgence. Alors que c'est ça encore en Amérique latine que moi je connais, tu sais.
Oui.
Puis c'est ça qui est beau.
Effectivement. Avant d'arriver en Amérique latine,
oui,
on va parler de vos premiers voyages. Vos premiers voyages, vous les avez faits dans des bandes dessinées.
Ah oui.
Oui, ben oui.
Oui.
Comme des centaines et j'allais dire des milliers d'enfants.
Oui.
Vous avez lu les albums de Tintin, les aventures de Tintin et les albums d'Astérix.
Oui.
Toujours désignés volontaires pour partir en voyage. C'est ça vos premiers voyages?
Oui. Ah oui.
Ça vous fascinait ça?
Ah, ça m'amenait vraiment dans un autre monde. J'ai toujours été un petit peu inconfortable. Je sais pas si c'est dû par l'adoption ou quoi que ce soit. J'ai aucune idée. Mais je me suis jamais retrouvé vraiment à ma place tout à fait. Sauf dans ces moments-là où, je vivais les bandes dessinées. Et ma mère m'aidait à rentrer parce que dans Astérix, on mange toujours, hein. On est toujours dans un festin. Alors, on me préparait du poulet, des chips, je sais pas trop. Puis je disais ça, là, puis là, je mangeais. C'est d'où vient mon meudon d'aujourd'hui.
Vous avez pris exemple sur Obélix, tout en,
ah oui,
en suivant les aventures d'Astérix.
Mon idole.
Mais parce qu'on va continuer un petit peu sur votre chemin pour votre choix des études, la géographie.
Oui, ah, ça a toujours été... j'avais toujours un dictionnaire, toujours l'encyclopédie, dictionnaire Larousse. Puis il y a toujours une portion là qui est les noms propres et tout ça. Là. Puis je lisais tout ça, partout, tout le temps. C'était une fascination pour moi, pour les villes. Là, j'ai plus de mémoire, comme j'avais avant, mais écoute, c'était incroyable. Ça m'a toujours fasciné. On avait une encyclopédie avec des dessins. Là. Dans ce temps-là, c'était moins des photos que des dessins. Pas grave, c'est histoire-géographie.
Ouais.
C'était les deux. Moi, je trouve que c'est toujours lié là, ensemble. Là. Ça m'a fait voyager, beaucoup réfléchir. Mon adolescence en a été très imprégnée.
Oui.
Oui, tout à fait.
Mais là, au point d'en faire un champ d'étude, là, la géographie.
Oui, oui. Ah oui. Ça, c'était... c'est sûr qu'il y a un moment... Quand j'ai fini mon secondaire, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je ne sais pas. Comme bien des jeunes aujourd'hui, c'était la même chose dans ce temps-là. Ça a pris un 5-6 ans avant que je recommence. J'ai dit là, oui, ouais, je suis prêt. Puis c'est la géographie que je vais aller faire.
Ouais.
Ça a toujours été une force là, pour moi là, à ce moment-là. Puis alors je me suis lancé là-dedans. Puis j'ai fait pour me rendre à la géographie, j'ai fait quelques voyages aussi d'auto là, une fin de semaine à Chicago en auto. Je vais vous dire qu'il reste pas grand temps à faire de la visite là-bas, mais ça a été un moment punch que j'ai pas parlé souvent. Mais on arrive un dimanche à Chicago, il fait chaud, c'est incroyable. Il y a personne dans les rues. C'est une grande ville là, c'est 8 millions d'habitants. Puis la seule personne que j'ai rencontrée, c'est un itinérant noir qui devait mesurer ses pieds, je sais pas quoi, qui avait du papier journal dans ses culottes. pour absorber les liquides, pour absorber le reste. Et ça, c'est des années 80. Et là, je me suis vraiment, ça m'a cliqué dans la tête. Je me suis dit, on est dans la société la plus riche au monde, la plus observée, la plus adulée, les États-Unis. Comment on peut permettre ça? Ah, ça m'a...
C'est aller vous pointer dans le cadre.
Ah, c'est à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu des questionnements, mais à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus précis. C'est quoi la pauvreté, mais en même temps, il y avait de la maladie mentale là-dedans. Bon, tout, mais ça a vraiment... Ça part de là.
Ouais.
Vraiment, il y a une naissance, là, on va dire une naissance face aux valeurs, face à ce qui va
une
suivre.
Une prise de conscience fondamentale.
Oui.
Hein?
Elle est lente au début, là,
oui.
Mais c'est après que ça s'accélère.
Oui. Et puis là, vous avez aussi rencontré quelqu'un avec qui vous avez choisi de fonder famille.
Oui.
Parlez-nous de cette rencontre.
Et hey, ça, c'est au cégep. Guylaine, mon Dieu Seigneur. Femme qui riait tout le temps. Alors son sourire, mais ça a pris du temps avant qu'on se joigne. On était des bons amis au début, mais on dirait que l'amitié peut développer hein, autre chose. Puis c'est pas pour rien qu'on est encore ensemble. Ça a commencé par une amitié, puis c'est la femme la plus importante. Mais c'est au cégep, puis on se ramasse à la bibliothèque, puis on parlait. Puis on s'est fait jeter quelques fois dehors de la bibliothèque. C'est quelqu'un qui était, comment je pourrais dire, tellement d'une honnêteté que c'est ça qui m'attirait le plus. T'sais. Puis son sourire, ça invite justement à l'amitié, à célébrer la vie. Donc c'est vraiment là que ça a commencé. Voilà.
Puis là, finalement, il y a eu mariage.
Oui, plusieurs années plus tard.
Oui.
Oui, 5 ans plus tard, qu'on avait décidé de rester ensemble, là, on avait commencé à rester ensemble, là, 5 ans plus tard, en 92.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Abonada con la bendita Nicaragüita,
Alors, Steve Lemoine, on va vous laisser la possibilité de nous expliquer ce choix musical.
Ah, celui-là, ça c'est presque l'hymne national du Nicaragua. Ça ne l'est pas officiellement, mais il y a eu une révolution qui a duré des années, des décennies, là. Et finalement, les révolutionnaires ont gagné la guerre civile, si on veut, dans les années 80. Et ce chant-là est un chant patriotique, mais de douceur.
Oui.
On parle de fleurs, on parle
l'amour du pays, de la patrie
et tout. Là. Alors, c'est quand j'étais témoin la première fois de cette musique-là dans une foule là-bas, c'était impressionnant là, la chair de poule et puis tout ça, puis. Je trouve qu'on retrouve pas nécessairement ça ici là facilement là, mais ils aiment leur pays malgré tout ce qui s'est passé, malgré la pauvreté. Hein, Nicaragua a été des années le deuxième pays le plus pauvre en Amérique après Haïti. Je pense que c'est encore quasiment vrai là, parce qu'ils ont encore des problèmes aujourd'hui. Ça servirait un peu contre eux autres parce que le révolutionnaire qui avait réussi est rendu le dictateur du pays. Bon. Mais dans les années que j'ai été là, 97-98, c'est j'ai appris à aimer les peuples, à m'ouvrir à eux. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un d'assez renfermé, très timide, puis j'ai peur des autres. OK, mais ça, c'est une expérience qui m'a ouvert.
Vous êtes sorti de votre zone de confort.
Ah, mais continuellement.
Oui.
Et ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a toujours poussé à aller en avant.
Oui.
Tout le temps.
Parce que là, on vous suivait, vous êtes marié avec Guylaine.
Oui.
Vous aviez, votre première fille était arrivée.
Oh, oui.
Et vous décidez de partir. Est-ce que c'était pour une année complète?
C'était, on y allait par étapes, là, pour une année. Mais ce qui dans l'histoire, le fait que je partais au Nicaragua, c'était parce qu'on se séparait, moi puis Guylaine. Alors là, c'était tout mon chemin de ma vie était détruit, la famille, c'était pas mon choix là, c'était son choix à elle. Puis, on s'haïssait pas pareil, on s'aimait bien pareil, puis on est resté dans l'appartement parce qu'on pouvait pas. Avoir deux appartements en même temps là, mais là j'ai dit faut que je réoriente ma vie complètement et tout, puis tout ce qui m'est revenu c'est justement le point que je voulais élucider. Pourquoi la pauvreté?
Oui.
Pourquoi la douleur?
Oui.
Pourquoi tant de souffrance à la terre? Tu sais, je vivais un moment qui était vraiment pas facile pour moi. Puis là, on m'avait dit, ben, tu pourrais peut-être partir comme missionnaire laïque. Oh, je veux du missionnaire, moi pas certain là. Ils m'ont dit, la personne qui nous avait référé, elle dit, vas-y, rencontre-les, tu verras, ça sera oui ou ça sera non, c'est tout.
Ouais.
Puis on s'en va voir les Marianilles qui sont de Rock Forest à ce moment-là, Sherbrooke.
Oui,
là.
Oui, oui.
Et puis, je fais une rencontre avec le père Jean-Marc Grégoire. J'ai pas écrit là, mais quel bonhomme.
Ouais.
Quel bonhomme. Puis il dit, écoute, on a les mêmes valeurs à porter. Ben oui. Puis finalement, Guylaine était venue avec moi, tu sais, parce que j'avais dit... Puis ça s'est raccommodé tellement pas vite. Puis, ben, pas vite, quand même assez vite. Puis c'est devenu un projet familial.
Ben oui.
Fait que mon Dieu Seigneur.
C'est le bonheur, ça?
Ça, là, ça a été, ouais. Oui, c'est ça. On a failli décrocher, puis... Mais, puis on est parti, on était supposé de partir pour le Venezuela, finalement, ça fonctionnait pas. On s'est ramassé dans un deuxième choix qui était Nicaragua, puis écoute, on connaissait pas un ou l'autre. Puis Guylaine a parti 3 semaines avec le père Jean-Marc pour voir sur le terrain comment elle pourrait s'habituer de ça. Et puis après une semaine, elle me dit « Je suis pas sûr ». Elle pleurait au téléphone, puis tout ça. Puis après les 3 semaines, elle dit « Oh oui, on le vit, on y va ».
C'était okay. Une organisation qui était installée là-bas, soutenue par...
Oui, par les Marianites.
Les Marianites ouais. Du Québec, donc.
Oui.
Et physiquement, c'est quoi exactement la mission là-bas, là?
Eh bien, c'est de...
C'est un lieu?
Il y a plein... Oui, c'est un lieu, c'est un centre communautaire qui a beaucoup de plateaux de travail différents. Beaucoup sur le commerce équitable, il y avait aussi une ferme école, il y avait une pharmacie, une clinique santé là au fond alternative. Il y avait aussi de la danse folklorique, réapprendre un peu leur culture et tout. Ben il y avait une panaderia, c'est le pain là, une boulangerie.
Mm-hmm.
Garderie, bon, c'était quand même assez ça couvrait pas mal de secteurs. Mais le fond, c'est pour moi ce que j'ai appris, c'est de réapprendre à travailler à la dignité humaine. Tu sais, c'était bien ça. Pour moi, c'est la dignité humaine, là. Parce que le travail, c'est donner un rôle dans la communauté. Quand t'en as pas, ben tu fais quoi? Tu fais des mauvais coups ou tu vas boire parce que tu deviens alcoolique parce que tu remplis pas ton rôle de père de famille. Là-bas, c'est très important. Et voilà, ça a été ça. Puis il y avait on commençait aussi là j'aime pas le mot tourisme là, mais faire des stages solidaires. On sait plus quel mot leur donner là, mais c'est vraiment rentrer en solidarité avec les peuples.
Alors vous y avez passé de nombreux mois en famille là-bas.
Oui.
On va y revenir dans notre deuxième émission. Pour l'instant, je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation.
Bienvenue, c'est mon plaisir à moi.
On remercie Mario Blouin qui a trouvé les choix musicaux, ainsi que Berthold Bernier qui est à la réalisation technique de cette émission. C'est Danny Benz au microphone et je vous dis à bientôt.
Vous venez d'entendre Curriculum Vitae.